Nous lirons dans le livre de la Genèse, au chapitre 39. Quand Joseph arriva... Ah non, c'est pourtant la Bible du Semeur, dans les deux cas. Joseph arrivé en Égypte, avait donc été acheté aux Ismaélites qu'il avait conduit là, là-bas, par Potiphar, haut fonctionnaire du Pharaon, chef de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint la faveur de son maître, qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait dans sa maison comme au champ. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien, sauf de ses repas. C'est déjà pas mal. Joseph était un bel homme, ayant un beau visage. Après ces événements, la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « couche avec moi ». Mais il refusa et dit à la femme de son maître, « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi mauvais et pécherais-je contre Dieu ?» Jour après jour, elle revenait à la charge. Mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher à côté d'elle et d'être avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail, aucun domestique ne se trouvait là, alors elle l'agrippa par son vêtement en disant « couche avec moi ». Mais il lui abandonna son vêtement entre les mains et s'enfuit dehors. Quand elle vit qu'il s'était enfui dehors en lui laissant son vêtement entre les mains, elle se mit à crier pour appeler ses domestiques, puis elle leur dit « voyez cela, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous, il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié très fort ». Quand il a entendu que je poussais des cris pour appeler à l'aide, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle garda le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'au retour de son mari à la maison. Alors elle lui raconta la même histoire. « L'esclave hébreu que tu nous as amené, dit-elle, est venu vers moi pour se jouer de moi. Mais quand je me suis mise à crier pour appeler au secours, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Quand le maître de Joseph entendit le récit de sa femme qui lui disait « Voilà comment ton serviteur s'est comporté envers moi », il se mit dans une grande colère. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi, Joseph demeura dans la prison. Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Celui-ci lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'on y faisait. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui se passait par la main de Joseph parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Et non, c'est fini. Jusque-là, la lecture. On poursuit notre série sur la Genèse avec cet épisode particulièrement torride de la vie de Joseph, fils de Jacob, petit-fils d'Isaac et arrière-petit-fils d'Abraham. Et on peut s'interroger sur le thème de cet épisode ou de l'angle par lequel l'aborder. On pourrait l'aborder évidemment par l'angle de la tentation et développer le thème de comment résister à la séduction-tentation. On remarquera que dans le texte, le verbe « fuir » revient 4 fois. Dans des circonstances aussi dangereuses, c'est peut-être la solution. Fuir. Courage, fuyons. Parce qu'il faut du courage pour fuir la séductrice. Et ce thème de la séduction-résistance a inspiré bien des peintres et des illustrateurs avec quelques images. Voilà, j'aime bien cette image où on fait un gros plan sur... la main sur la tunique, là. Et j'aime bien aussi les chaussures de Joseph, tout à fait d'époque. D'autres images, peut-être plus manichéennes, la méchante égyptienne et le gentil et l'innocent Joseph qui s'enfuit. On a aussi, dans le style égyptien, là, tout de profil, un peu plat, un peu figé quand même, séductrice, ouais, bon. Et puis, on a celle-là, plus hollywoodienne. Il me semble que je reconnais presque les traits de Liz Taylor. Et puis, il y a un bellâtre américano-égyptien aux cheveux longs qui s'enfuit. Mais je ne pense pas que ça soit le thème du passage, du chapitre 39 et du chapitre 40. Le thème de ce passage, c'est celui de Calimero, que vous avez sur votre memento. C'est celui de l'injustice et comment on réagit quand on est dans des situations injustes. Déjà, Joseph a été jeté par ses frères dans une citerne et vendu à des caravaniers, à des esclavagistes ismaélites, alors qu'il n'avait pratiquement rien fait. Bon, il s'était vanté de quelques rêves, mais bon, c'est pas si grave que ça. Mais rien fait pour attirer sur lui une telle haine. Bien sûr, un petit peu maladroit, un tantinet arrogant, mais malgré tout, ça ne valait pas d'être jeté dans une citerne et encore moins d'être vendu comme esclave. Et maintenant qu'il commence à s'en sortir dans la vie, il lui arrive une histoire pas possible, une femme haut placée, enfin la femme de son propriétaire, d'un haut fonctionnaire égyptien, jette son dévolu sur lui, lui le beau gosse venu du désert, mais il résiste aux assauts répétés d'une femme qui possède du pouvoir quand même. Et il est accusé d'avoir abusé d'elle. Pire, le haut fonctionnaire qui semblait lui faire confiance, l'estimait beaucoup, tourne casaque et ne prend même pas le soin de faire une enquête. Il se met du côté de sa femme sans chercher à en savoir plus. C'est tellement injuste. Ainsi, Joseph demeura dans la prison. Et puis, deuxième épisode que nous n'avons pas lu, c'est le chapitre 40. En prison, il interprète des rêves de deux prisonniers du roi, du pharaon, de hauts fonctionnaires. Et l'un d'eux est libéré suite à la bonne interprétation du rêve faite par Joseph. Et au lieu de retourner en prison pour remercier Joseph, ou alors pour en parler au pharaon et de lui dire de libérer peut-être cet homme qui est intervenu pour lui, au lieu de ça, le texte nous dit, il l'oublia, il oublie Joseph, alors qu'il lui doit quelque chose. C'est injuste. Et Joseph vit une série d'injustices criantes. On dirait qu'il est un spécialiste de l'injustice. Et peut-être que son histoire pourrait nous dire quelque chose justement au niveau de la réaction face à l'injustice. Mais d'abord, avant de répondre à cette question, ou d'essayer de répondre à cette question, il faudrait savoir un petit peu ce qu'est réellement l'injustice. Quand Calimero, le gentil Calimero, nous dit « c'est trop injuste », de quoi parle-t-il ? Peut-être le verbe « oublier » qu'on a utilisé, enfin que la Bible a utilisé pour parler de Joseph, oublié en prison par le haut fonctionnaire qui en avait été libéré, on rentre un petit peu dans la définition de l'injustice, l'injustice ou subir une injustice. On va dire, c'est être oublié au fond d'une prison, et on devrait certainement ajouter, alors que vous êtes innocent. Il y a dans l'injustice une notion d'oubli, mais aussi d'ingratitude, ou on va dire de non-retour par rapport à ce qui est attendu. C'est injuste quand on ne reçoit pas ce qu'on est en droit d'attendre de la vie des autres. Mais on pourrait discuter sur l'expression « ce qu'on est en droit d'attendre ». Qu'est-ce qu'on met derrière cette expression ? Est-ce que ce qu'on est en droit d'attendre signifie le cours normal des choses ? On est en droit d'attendre que le cours normal des choses se déroule pour moi, dans cette situation. L'injustice, oui, serait... c'est quand on ne reçoit pas ce qu'on est en droit d'attendre du cours normal des choses. Mais qui détermine le cours normal des choses ? Ah oui, c'est pas facile. C'est pas facile cette notion d'injustice. Je m'arrête quelques instants pour vous poser une question. Et vous, quand on vous parle d'injustice, à quoi pensez-vous ? dans votre vie, avez-vous vécu des situations injustes ? Avez-vous ou êtes-vous en train de vivre une situation injuste ? Alors j'ai lu un article intéressant sur l'éducation des enfants par rapport à l'injustice. Parce que les enfants, ils sont très sensibles à l'injustice. Et on peut apprendre peut-être d'eux, parce que nous sommes de grands enfants et que nous leur ressemblons à bien des égards. Mais le premier niveau, et ça c'est, il y aura à chaque fois une phrase, le premier niveau, c'est quand l'enfant dit « c'est pas juste d'aller au lit ». Et en fait, il y a là un détournement du mot « justice », il ne veut tout simplement pas aller au lit, il ne veut tout simplement pas obéir à ses parents, il crie « à l'injustice, c'est pas juste ». Mais ce n'est pas de l'injustice, c'est de l'obéissance pour son bien. Il doit dormir, sinon le lendemain, il va être fatigué et ce sera fatigant pour tout le monde. Et je vous laisse faire le parallèle avec le monde des adultes. Il y a tellement de choses que l'on trouve injustes, mais je vous donne un exemple. Sans commentaire. Le deuxième sens, c'est quand l'enfant dit « il a plus de gâteaux que moi ». C'est pas juste. Et vous connaissez les enfants, ils sont capables de mesurer au millimètre près leur part de gâteau pour être sûr de ne pas être défavorisés. Les enfants comparent en permanence et il semble qu'il y ait chez eux une confusion entre égalité stricte au millimètre près et justice. Pour eux, ce n'est pas juste de ne pas avoir ou de ne pas être strictement comme leurs frères, leurs sœurs ou leurs copains. Alors, au niveau des enfants, on ne s'inquiète pas trop, ça va disparaître, on espère, ils vont apprendre. Mais il peut y avoir des restes de comportement enfantin dans le monde des adultes. Un prêtre qui s'appelle Patrice Courrier, psychologue aussi, il nous parle de l'intolérance à la frustration. Pour nous, les adultes, une intolérance à la frustration qui est une marque de notre société. Nous sommes obsédés par la recherche du bonheur individuel, la recherche de notre bien-être personnel. Et on crie à l'injustice quand nos désirs ne sont pas satisfaits. La non-satisfaction de nos désirs est vécue comme une injustice. C'est pas juste, j'ai moins que les autres. C'est pas juste, mes désirs ne sont pas satisfaits. Et il me semble que l'on ressemble un peu à ces enfants qui comparent leur part de gâteau, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas non plus de l'injustice. Par contre, il y a des situations objectives qui sont véritablement injustes. Et pour l'enfant, par exemple, ce serait « j'ai été puni alors que je n'ai rien fait ». Et ça, c'est véritablement de l'injustice. Comme le dit Luigi, 4 ans, l'injustice, c'est quand il se passe le contraire de ce qui doit arriver. C'est pas mal, ça. Et ce sentiment est très fort, très présent. Par exemple, dans nos vies, pourquoi avoir été licencié brutalement alors que je me suis tant investi dans ce travail ? Pourquoi cette personne a disparu alors que je l'aimais ? C'est très injuste. Et ce sentiment d'injustice est renforcé par le fait que d'une part, on se sent impuissant dans cette situation. Le licenciement, on n'a rien pu faire. Et d'autre part, parce que le sens de cette injustice ou de cette épreuve ou de ce coup dur nous échappe complètement, puisque c'est injuste. On ne comprend pas pourquoi ça tombe sur nous maintenant, alors que nous n'avons rien fait de particulier qui mériterait cela. Et ce sentiment d'injustice est décuplé quand ce sont des coups durs en série, comme pour Joseph. Joseph, son histoire, ça, c'est une histoire d'injustice répétée, d'infortune, de coups du sort. C'est pas juste, c'est trop injuste. Et puis, le dernier niveau d'injustice, c'est... Enfin, le dernier, c'est pas hiérarchique. Mais c'est l'injustice que l'on ressent par rapport à des choses à l'extérieur de soi. Ce n'est pas juste ce qui leur arrive à ces gens qui perdent leur maison dans une inondation, comme le montre l'image. Il y a aussi un sentiment d'injustice quand il y a un décalage entre ce que nous croyons bien, bon, et ce que nous voyons dans la réalité. Et là, nous crions à l'injustice et nous nous mobilisons pour des causes que nous croyons justes dans ce monde qui ne l'est pas juste. Et on peut penser à Martin Luther King, dont on fête en 2018 l'anniversaire, entre guillemets, de sa mort en 68. Il s'est battu pour les droits civiques de son pays contre l'injustice par rapport au traitement des Noirs américains. Et il mettait le doigt sur un élément important de ce combat contre l'injustice, c'est celui de la solidarité humaine face à l'injustice. Regardez ce qu'il dit Martin Luther King. « Une injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice partout ailleurs. Car nous sommes tous pris dans un tissu de relations mutuelles. » Une solidarité contre l'injustice. Et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais cette solidarité contre l'injustice mondiale, il me semble qu'elle se perd un peu aujourd'hui. Et c'est peut-être dommage. C'est certainement dommage. Et pourtant, le monde est toujours aussi injuste. Et c'est peut-être par là qu'il aurait fallu commencer. Le monde est injuste. Bill Gates le disait. « Life is not fair ». Et il ajoutait « Vaut mieux vous y habituer à cette idée que la vie est injuste. » Alors, moi, je me demande s'il était le mieux placé pour parler de l'injustice de la vie. Mais bon, on le prend quand même. Et effectivement, le monde est injuste. Ou la vie est injuste. La vie ne paraît pas injuste. C'est pour ça que sur votre memento, il y a Christine qui a réussi à faire un... Quand la vie paraît, non, quand elle l'est. Quand elle est injuste, oui, l'ingratitude, l'oubli, les inégalités, les coups durs en série, les coups bas, le décalage entre l'idéal et la réalité font partie de ce monde. Oui, le monde est injuste. Et nous qui étudions la Genèse depuis quelques mois, nous avons, au contraire peut-être de Bill Gates, une piste d'explication de cette injustice dans le monde. Elle est arrivée dans Genèse 3, quand l'homme et la femme ont décidé de vivre indépendamment du Dieu juste, du Dieu garant de la justice. Et ce décalage, justement, dont on parlait et que l'on peut ressentir entre notre idéal intérieur et d'un monde et d'une réalité qui serait, entre ouais, d'un monde juste, équitable, où le bien que je ferais appellerait le bien, où le mensonge serait dévoilé et que la vérité serait toujours encouragée, et ce décalage entre cet idéal intérieur et la réalité injuste que je vois autour de moi, ce sentiment, ce décalage que je ressens au plus profond de moi, signale qu'il y a en moi, en tout être, comme un souvenir diffus de ce paradis perdu. Qu'il y a profondément une envie de justice, un espoir de justice. Et qu'il y a profondément envie, espoir d'une relation avec un être qui serait pleinement juste et qui serait garant de la justice. Il y a dans ce ressenti d'injustice comme un appel au Dieu juste. Mais on va revenir à notre histoire de Joseph et à la question qu'il nous pose. Comment réagir dans des situations injustes ? Et là, l'histoire de Joseph nous interpelle parce que dans ces situations injustes, Joseph s'en sort pas mal du tout. Il s'en sort même très bien, mieux que quiconque. En tout cas, mieux que ses prédécesseurs, en tout cas. Je parle des autres patriarches. On l'a vu avec Abraham, Isaac, Jacob. C'est plutôt la fidélité de Dieu, la grâce de Dieu qui est mise en avant plutôt que la droiture, la justice, l'obéissance de ces patriarches qui paraissent bien faibles et bien décevants. Abraham qui livre sa femme, Sarah, au pharaon parce qu'il a peur de mourir. Isaac qui fait la même chose avec Rebecca. Jacob, le trompeur, bon, qui se transforme, enfin qui est quand même pas hyper. Alors que Joseph, lui, semble répondre à la promesse que Dieu a faite à Abraham dans Genèse 18, qui dit « Tu auras un descendant qui marchera de manière droite et juste, qui sera juste et droit devant moi. » Joseph représente cela. Il y a toujours la grâce de Dieu qui vient, mais il y a aussi cette obéissance et cette justice de Joseph. Il y a une imbrication, comme jamais vue, dans Genèse 39-40, dans la vie de Joseph, entre l'action de Dieu, mais la réponse active de l'homme par rapport à l'amour et la grâce de Dieu. Et d'ailleurs, certains ont rapproché Joseph de cette nouvelle alliance qui apparaît avec les prophètes Jérémie et Ézéchiel, où il est question, vous savez, du cœur nouveau, du cœur de chair, d'une alliance nouvelle avec des cœurs nouveaux. Et il semble que Joseph, il a un nouveau cœur. Un cœur renouvelé qui lui permet de marcher dans la justice et la droiture devant Dieu, dans la foi et l'obéissance. Et c'est peut-être pas pour rien qu'il est la seule personne dans tout le livre de la Genèse où il nous est dit qu'il est rempli ou habité par l'Esprit de Dieu. Joseph est peut-être la première personne vraiment spirituelle ou qui marche par l'Esprit. Peut-être est-il aussi une préfiguration de Christ. Mais en tout cas, il apporte une réponse spirituelle à notre question, comment réagir dans des temps d'injustice, dans des situations d'injustice. Premièrement, vous savez que j'aime bien les points, donc on ne change pas une équipe qui gagne, mais rester centré sur Dieu. Et on le voit, et c'est tout à fait remarquable, dans ces situations d'injustice, jamais Joseph ne sort Dieu de sa vie. Jamais Joseph ne dit, si c'est comme ça, je vais faire à ma manière. I do it my way. Souvent injuste. Non, au contraire, il reste centré sur Dieu, sa vision du monde reste théocentrique et c'est surtout au niveau de son éthique qu'il va rester centré sur Dieu. Alors que la femme de Potiphar cherche à le séduire, il va dire, comment commettrais-je un acte aussi mauvais à l'égard de Potiphar, mais aussi pécherais-je contre Dieu? Son éthique reste centrée sur Dieu. Il y aurait dans des situations d'injustice la tentation d'envoyer en l'air toute son éthique chrétienne et de répondre par exemple à la violence par la violence, de répondre au mensonge par la calomnie et donc de répondre à l'injustice par l'injustice. Mais Joseph ne le fait pas. Il reste centré sur Dieu, éthiquement parlant. Et d'autres ont suivi leur exemple, je parlais tout à l'heure de Martin Luther King. À l'injustice des droits civiques bafoués pour les Noirs américains, Martin Luther King a répondu par la non-violence. Une non-violence déterminée, mais la non-violence. Deuxièmement, garder confiance en la souveraineté de Dieu. Éthique, le premier point. Deuxième point, théologique. Alors, quand on parle de souveraineté de Dieu, il faut faire attention. On ne parle pas de contrôle de Dieu. On ne parle pas de planification, comme dans les régimes communistes, on planifiait. De planification de Dieu. On ne parle pas d'un Dieu qui réglerait tout comme sur du papier à musique. Mais on parle d'un Dieu présent dans la vie. Et d'un Dieu qui vous accompagne et qui accompagne Joseph dans sa vie. Et il y a une phrase qui revient 4 fois dans Genèse 39, dans le chapitre, c'est « L'Éternel était avec Joseph ». Alors, c'est le narrateur qui le met dans l'histoire pour bien montrer que Dieu suit de près cette histoire de tunique et de Joseph sous la tunique ou sans la tunique. Mais on peut penser quand même que Joseph y a pensé à cette présence de Dieu dans ces situations injustes. Il y a pensé et il l'a vu. Il a vu que malgré l'injustice de ces situations difficiles à vivre, il a vu que Dieu était présent et qu'il lui donnait sa bénédiction. Et on a entendu dans le passage qu'il le faisait réussir partout où il allait, même en prison. Que Dieu le bénissait en prison. Et une expression qui pourrait nous faire penser qu'il s'agit d'un acte magique ou automatique, mais ça ne l'est pas. Joseph est vraiment là, en prison ? Il y est pour quelque chose, si ça a réussi en prison, parce que c'est un homme de bien, c'est un homme qui cherche la justice, qui reste ouvert sur les autres, etc. Et Dieu est avec lui, et Joseph est avec Dieu. Et il marche avec lui. Et c'est une bénédiction de marcher avec Dieu où qu'on soit, et de pouvoir compter sur sa présence, même dans les situations injustes. Et nous pouvons le dire aussi, même si on ne réussit pas tout ce qu'on entreprend, comme Joseph. Mais on sait que Dieu est présent dans notre vie. Dieu est là. On le voit. On le perçoit à travers ce que j'aime appeler les clins d'œil de Dieu sur notre vie ou les petits signes de piste. Et je les vois, ou je ne les vois pas, mais je les vois avec les yeux de la foi. Et cette promesse de soutien et de présence, Dieu va la donner à Moïse, par exemple, qui est timide pour parler en public. Il va la donner à Josué, qui n'ose pas franchir le Jourdain pour aller dans le pays de Canaan. Il va le donner à Jérémie, qui doit partir en mission impossible. Il va la donner, cette promesse de présence, à Isaïe, qui se sent trop nul pour répondre à l'appel de Dieu. Et un certain Jésus de Nazareth va la donner, cette promesse de présence, à des disciples tellement conscients de leur inadéquation par rapport au monde. « Voici, dit Jésus, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'à la fin de ce monde injuste. Et cette promesse est encore pour nous, disciples du XXIe siècle, si nous sommes chrétiens, dans ce monde marqué par l'injustice. Troisième point, après le point éthique, théologique, le point 1, j'ai oublié de le marquer, pratique. Vous avez vu sur vos mementos, il y a des petits traits, vous pouvez rajouter au bic les mots manquants. C'est un petit jeu, mais pour vous tenir attentif. Continuez à faire ce qui est juste. Et c'est tout à fait remarquable dans l'histoire de Joseph, c'est que même en situation injuste, c'est-à-dire au fond de sa prison, il va faire ce qui est juste. Celui-ci, on parle du commandant, lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction. Alors il est béni par Dieu, mais Joseph, il s'active dans la prison. Et je fais peut-être un raccourci, mais je crois que l'on peut dire que Joseph va se battre pour un monde plus juste en prison. Au lieu de taper sur les murs de sa geôle ou de se lamenter comme Calimero, il va se tourner vers les autres et faire en sorte que ce monde carcéral soit un peu plus juste. Il prend soin des autres. Et après, il va prendre soin des deux fonctionnaires au chapitre 40 qui sont là emprisonnés aussi. Et c'est ce que disait le prêtre que j'ai cité tout à l'heure, pour répondre à l'injustice dans le monde et pour ne pas rester coincé dans l'amertume ou dans l'esprit de vengeance, se poser la question « Que puis-je faire de juste pour répondre à l'injuste ?» Continuer dans les situations injustes à se battre pour la justice. Et ce même mouvement intérieur animait William Booth, le fondateur de l'armée du salut. « Je me battrai, dit-il, tant que je verrai des enfants pleurer, souffrir, avoir faim. Je me battrai tant que des femmes seront opprimées. Je me battrai tant qu'il y aura un ivrogne à sauver, tant que les hommes seront en prison, n'en sortant que pour y entrer de nouveau, tant qu'il y aura une âme seule, abandonnée, angoissée, dans la nuit de ce monde moderne. Jusqu'à ma dernière énergie, jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai et je me battrai encore. » Et puis dernier point, qui est peut-être le plus difficile pour les hommes et les femmes nés au XXe ou XXIe siècle, comment réagir dans des situations injustes ? Eh bien, les comprendre, les percevoir comme étant des opportunités, des occasions, faudrait dire, de croissance spirituelle. Alors c'est difficile à comprendre, justement, dans son sens, dans le sens étymologique du verbe « comprendre », à prendre pour soi, ou prendre avec soi. Parce que le sentiment d'injustice nous amène dans des situations très inconfortables où la charge émotionnelle est très forte. Mais c'est clair que dans la prison, dans des situations d'injustice, Joseph apprend sur lui, apprend sur Dieu, et dans sa relation avec lui, il apprend à discerner ce qui est prioritaire dans sa vie, ou tout simplement, il apprend à vivre sa foi dans ce monde injuste. Et c'est, paraît-il, la même chose pour nous, nous dit la Bible, nous dit Jacques. Il nous dit, Jacques, l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur, probablement, nous dit, regardez-vous comme heureux, vous qui vivez des épreuves. Parce que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, ou l'endurance. Et on a tous du mal avec ce genre de verset. Parce que quand on vit une situation injuste, le flot, la charge émotionnelle, le niveau émotionnel est très haut. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur ne nous demande pas de garder toujours ce sourire, de serrer les dents, de ne pas pleurer, de ne jamais pleurer. Le Seigneur ne nous demande pas de ne jamais nous mettre en colère contre l'injustice. La foi chrétienne n'est pas du stoïcisme. Mais il s'agirait peut-être pour nous de reconnaître, et probablement après coup plutôt que sur le moment, parce que sur le moment, on apprend peu. Mais c'est après coup de reconnaître que finalement, cette épreuve, cette injustice subie m'a plutôt permis de m'approcher de Dieu et de vivre en dépendance par rapport à lui. De ce Dieu qui marche avec moi et qui est présent au fin fond de ma prison injuste. Quatre points. Et celui-là, c'était le spirituel. Éthique, théologique, pratique, spirituel. J'ai trouvé ça hier soir, très tard. J'étais assez fier de moi. J'appelle des témoins à la barre pour parler de l'injustice et des situations injustes. J'appelle d'abord Corrie ten Boom, qui vit l'injustice des camps de concentration. Toute sa famille a été internée à Ravensbrück, camp de concentration des nazis. Ils ont été déportés parce qu'ils avaient caché des juifs en Hollande. Son père, sa mère meurent là-bas, sa sœur meurt aussi. Avec le témoignage de sa sœur, elle devient chrétienne, Corrie. Et elle, après la guerre et sa libération, elle fait des conférences, elle écrit des livres, etc. Et je vous l'ai déjà raconté il y a quelques années, mais dans les années 50, elle fait une conférence à Berlin et elle voit avancer un homme qui est son ancien geôlier de Ravensbrück, responsable, avec d'autres, de la mort de ses parents et de sa sœur. Elle avait donné sa conférence sur le pardon, le thème du pardon en Christ. Et le geôlier s'approche, elle le reconnaît bien. Lui ne la reconnaît pas personnellement, mais elle avait parlé de Ravensbrück, et il était joli à Ravensbrück, et il lui demande de lui pardonner. Et Corrie ten Boom nous raconte dans son livre que ses deux bras étaient comme ça. Elle ne pouvait pas. Et après quelques secondes, elle a senti une chaleur surnaturelle venir. Alors elle a esquissé d'abord son bras pour saluer cet homme. Et comme une aide surnaturelle est intervenue pour lui permettre de chaleureusement saluer cet homme et lui dire « Je vous pardonne ». Corrie ten Boom, l'injustice des camps de concentration. Johnny Erickson, l'injustice du handicap. Jeune fille de 17 ans qui faisait du cheval, la natation, et qui se casse la vertèbre entre C4 et C5. En plongeant dans un plan d'eau qui n'avait pas assez de fond. Tétraplégique. Prière pour guérison, etc. Mais 10 ans après, dans son fauteuil, alors qu'elle peint des superbes tableaux avec sa bouche, enfin avec un pinceau dans la bouche, elle nous dit dans l'épilogue de son premier livre, je peux aujourd'hui louer Dieu pour tout, les rires et les larmes, la joie et la souffrance. Tout cela a fait partie de ma croissance dans la grâce de Dieu. La jeune fille qui s'affolait devant chaque nouvelle circonstance de sa vie est maintenant devenue adulte. C'est une femme qui a appris à s'appuyer sur la souveraineté de Dieu. C'est elle qui parle. Je suis maintenant, dit Johnny, une femme qui a appris à s'appuyer sur la souveraineté de Dieu, la présence de Dieu dans sa vie et l'accompagnement. J'appelle à la barre aussi Valentin, qui est un Congolais d'1m90, un beau gosse, au moins comme Joseph. Et il jouait au volet. Et dans les années 90, il reçoit une balle perdue des soldats de Mobutu, alors qu'il était à l'université de Lubumbashi. Et je lui rends visite à Bruxelles pendant 2 ans, assez régulièrement. Et je me souviendrai toujours ce Valentin, avec son grand sourire, sur sa chaise roulante, qui me disait « Mais tu sais quoi, Eric ? Dieu est grand. » Et moi, en tout cas, et lui, je crois aussi, je sortais grandi de ces entretiens. Avec Valentin qui avait vécu et qui vivait l'injustice de la violence des hommes. Et puis, dernier témoin de ce monde, témoin de l'injustice, un dénommé Jésus qui mène une vie exemplaire, qui guérit des personnes, qui parle d'amour et de pardon et qui termine sa vie comme un meurtrier sur une croix, peine capitale la plus dégradante dans l'Empire romain. Quoi de plus injuste que la crucifixion du Fils de Dieu ? Quoi de plus décalé par rapport à l'idéal qu'un Dieu souffrant injustement ? Jésus, l'injustice de la croix. Mais sur la croix, alors qu'il porte sur lui tout le péché du monde, le péché qui est entré dans le monde, alors qu'il porte sur lui toutes les injustices du monde, alors qu'il est le nouvel Adam, il va dire à ceux qui sont là, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Oui, pardonne leur comportement injuste. Pardonne leur injustice. Pour qu'ils puissent en être délivrés. J'ai trouvé cette citation d'Albert Camus dans son livre « Les Justes ». Albert Camus, à l'époque où on se battait contre l'injustice, il disait « J'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice, il fallait donner sa vie pour la combattre. » Ouais, ouais. Et c'est précisément ce que Jésus a fait, lui, le juste, a donné sa vie pour combattre l'injustice du monde. Et il est ressuscité pour nous permettre de vivre une vie nouvelle, entièrement tournée vers la justice, où on rechercherait premièrement son royaume et sa justice. Ouais, dans ce monde injuste, dans des situations injustes, on veut suivre l'exemple de Joseph. Mais on veut surtout vivre de cet amour de Christ pour nous, manifesté à la croix et qui nous permet aujourd'hui de combattre dans nos vies et dans le monde, toutes les injustices. C'est par sa grâce, ou c'est grâce à lui et par sa grâce que nous tiendrons solidement sur le roc dans ce monde marqué par l'injustice. Amen.